Chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre série concernant l'amour de Dieu. Nous aurons deux courtes études, des thèmes très très intéressants, mais très concentrés aussi, mais assez court. Tout cela, comme vous le savez maintenant, c'est que ces études ne sont pas des plus faciles à comprendre. Nous avons tous reçu une certaine mesure, possibilité de comprendre les Saintes Écritures, et il va sans dire qu'il y en a qui ont des connaissances, disons, 20 fois plus importantes que sont les miennes, et aussi dues à leur passé de hautes études, ils ont évidemment un avantage de pouvoir assimiler beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement tout ce qui concerne les Saintes Écritures. Néanmoins, bien que je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus limités, cela ne veut pas dire que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne pas à toujours évoluer au fur et à mesure que nous avançons dans la compréhension de la Sainte Parole et surtout par l'aide du Saint-Esprit, ce qui est très important. Donc, chacun de nous recevra, ou si vous voulez, sera jugé, selon ses possibilités. Et nous avons affaire à un Dieu d'amour, merveilleux, qui ne nous juge pas d'une façon drastique et qui tient compte de nos possibilités, s'ils sont faibles ou s'ils sont beaucoup plus évolués. Donc, nous avons un Dieu d'amour, de charité, de compassion, heureusement. Et donc, il ne faut pas vous en faire si vous ne comprenez pas du premier coup certaines choses que vous allez entendre sur ces CD. Mais vous savez, rien ne vous empêche de réécouter une deuxième fois pour mieux comprendre les subtilités, les mystères que le Seigneur veut nous communiquer. Donc, allons de l'avant avec confiance. Et aussi, je voulais dire, c'est important, Dieu tient compte de tous ceux qui doivent se lever à 5 heures du matin pour prendre le métro, pour faire des trajets parfois très conséquents, dû à une grande fatigue déjà le matin et à nouveau le soir, sans compter toute la journée le stress de pouvoir travailler toujours plus vite et toujours mieux, ce qui est aujourd'hui demandé à tout un chacun d'une façon malheureusement pas, on pourrait presque dire, ça redevient une sorte d'esclavage, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans un système, soit que tu le fais, ou c'est un autre qui le fera. Parce qu'il y en a 50 qui attendent à la porte pour avoir ta place. C'est très difficile et très dur. Aussi, le Seigneur sait qu'il est impossible pour une certaine quantité d'humains de pouvoir encore avoir l'énergie, la force d'étudier la sainte parole de Dieu, de prier, d'intercéder, de méditer, beaucoup trop fatigué, souvent le soir. Par contre, ceux qui ont un peu une vie un peu, disons, un peu mieux, si on peut dire, à la place de s'adonner à tous les jeux électroniques et à la télévision jusqu'à minuit, il ferait mieux d'étudier la Sainte Parole, car Dieu aussi jugera de notre temps gaspillé inutilement pour des choses qui ne nous avancent pas un iota spirituellement. Tout cela mérite d'être médité, vous savez. Il ne faut pas prendre les choses trop à la légère, car chacun de nous aura des comptes à rendre. Mais encore une fois, Dieu est amour et il ne demandera jamais de quelqu'un qui est fatigué, vidé le soir, des choses qu'il ou elle ne pourrait plus faire. Dieu est vraiment d'amour, un Dieu d'amour, et il en tient compte. Et pour les uns, être sauvé en ayant accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel suffira amplement. Je ne dis pas pour tous, parce que ceux qui ont plus le temps, eh bien, ils doivent utiliser leur force et ce temps pour avancer dans les choses de Dieu et aussi de le servir, sauver pour servir, n'est-ce pas ? Simplement se dire « je suis sauvé », c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Mais encore une fois, ceux qui doivent travailler très dur, du matin au soir, eh bien, il ne leur sera pas demandé la même chose, car Dieu est juste. Chers amis, donc, nous avons deux courtes études. Premièrement, les bénédictions dans les lieux célestes. Et deuxièmement, la communion avec Christ. Revenons à notre première étude ou exposé, les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Et le Seigneur glorifié révèle maintenant ce qu'il doit être pour l'âme, car il est beaucoup question de l'âme dans notre série actuelle, car c'est l'âme que le Seigneur nous demande pour l'éternité. Et plus cette âme pourra être sanctifiée, purifiée, plus, eh bien, nous aurons donc une avance dans les lieux célestes. Mais encore une fois, nous avons un Dieu d'amour et juste. Alors je répète, le Seigneur glorifié révèle maintenant ce qu'il doit être pour l'âme. Il montre les divers aspects de la vie céleste que manifestera le Saint-Esprit en elle. Nous avons l'amour de l'Esprit-Saint selon le Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 et 14. Ce sont des versets souvent expliqués d'une façon allégorique, mais que l'Esprit-Saint nous aide à pouvoir les concrétiser dans le texte pour la compréhension d'un ensemble des Saintes Écritures. Il est dit « Tu m'as donné courage, ma sœur, ma fiancée, avec l'un de tes regards. Qu'il est beau ton amour, ma sœur, ma fiancée. Tes lèvres distillent des rayons de miel. Le miel et le lait sont sous ta langue, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Chapitre 4, versets 12 et 14. Le cœur de Christ est donc satisfait. Jésus-Christ a dit, « Père, que l'amour dont tu m'as aimé se trouve également en eux. » C'est ce qu'il a demandé au Père, selon saint Jean, chapitre 17, verset 26. L'amour de Dieu est maintenant répandu dans le cœur de celle qui est cachée en lui par le Saint-Esprit. Nous parlons de l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire « Comme tu es belle, mon amour, ma sœur, ma fiancée. » Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un, c'est-à-dire du Père. Alors je répète, il a dit Jésus-Christ, « Père, que l'amour dont tu m'as aimé puisse se trouver également en eux. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous du Père. » C'est pourquoi il n'a point honte, oh non, il n'a point honte de les appeler ses frères et sœurs. Hébreux, chapitre 2, verset 11. Ni de dire « Mon Père est votre Père ». Il dit « Notre Père ». Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Enfin, elle est membre, l'âme, de l'épouse de l'Église, parce qu'elle est unie à lui, à Christ, par un même esprit. De plus, elle est maintenant si accessible à la pensée divine qu'un regard vers lui est sa réponse à tout nouvel appel. Aussi se dit-il encouragé à la conduire plus en avant pour accomplir en elle tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de la foi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. Elle est donc parfumée du parfum de sa présence. Et à cause de l'amour qui remplit son cœur, ses paroles sont douces comme le miel, pures comme le lait, et ses vêtements eux-mêmes sont parfumés de l'odeur du Liban. Nous avons maintenant le fruit de l'Esprit. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 et 14, « Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin fermé, une source fermée et une fontaine scellée. Tes jets sont un paradis avec des fruits précieux, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloé, avec tous les aromates les plus excellents. » Chapitre 4, versets 12 et 14 du Cantique des Cantiques. Le Seigneur, il compare l'âme qui a été rachetée, il la compare à un jardin enclos de murs pour lui seul. Car elle s'est donnée entièrement à lui pour qu'il la dirige et pour qu'il la conduise à faire sa volonté, ce qu'il aime. Pardon. Donc, il l'a choisie pour qu'elle porte du fruit. Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Et il discerne en elle les fruits de l'Esprit Saint, fruit de choix et très précieux. Tous les aromates les plus excellents. Galates chapitre 5, verset 22. C'est en ceci que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Saint Jean chapitre 15, verset 8. Et ils diront: cette terre désolée est devenue comme un jardin d'Éden. Ézéchiel, chapitre 36, verset 35. Ils verront que la main de l'Éternel a fait cela, que l'Éternel, le Saint, en est l'auteur. Ésaïe 41, verset 18 et 20. Le Cantique des Cantiques dit: tu es une source fermée, ô fontaine des jardins, ô puits d'eau vive, ruisseau du Liban. Chapitre 4, versets 14 et 15. Donc, le bien-aimé fait du disciple fidèle une source fermée. Donc, fermée, car c'est uniquement lui qui doit l'alimenter d'eau vive. Lui seul peut faire cela. L'âme doit toujours rester auprès du Seigneur et en sa dépendance pour pouvoir recevoir et communiquer de sa vie aux autres lorsqu'ils le demandent ou lorsque les autres en ont besoin. Il faut qu'elle soit persuadée de son impuissance absolue en dehors de lui. Il est celui qui possède et qui contrôle, qui emploie tout ce qu'il communique, tout ce qu'il est en l'âme qui a été racheté. Mais je voudrais répéter juste une phrase. L'âme doit toujours rester auprès du Seigneur et il doit rester en sa dépendance pour pouvoir recevoir et pouvoir communiquer de sa vie aux autres lorsque le Seigneur le demande ou lorsque les autres en ont besoin. Le Seigneur se révèle maintenant comme étant lui-même la source des eaux vives. L'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira. Saint Jean, chapitre 4, verset 14. Et qui deviendra des fleuves d'eau vive? Saint Jean, chapitre 7, verset 38. À quelles conditions le Seigneur communique-t-il les eaux vives? Eh bien, c'est celui qui croit en moi, en Jésus-Christ, dit-il. Mais les paroles impliquent qu'il faut demeurer. Oui, vous l'avez compris, il nous faut demeurer unis à celui, à Jésus-Christ, qui peut communiquer les eaux vives. Il ne suffit donc pas d'un seul acte de foi, il faut une action continuelle de la foi qui garde l'âme en lui, car il est sa vie. Je répète, il ne suffit donc pas simplement de penser qu'un seul acte de foi suffit, et maintenant je peux m'asseoir dans un fauteuil. Et il faut donc, au contraire, une action continuelle de la foi qui garde notre âme en lui, car il est le Seigneur, sa vie à l'âme. Celui qui croit en moi, est-il dit, moment après moment, pas seulement un instant, mais moment après moment, c'est-à-dire perpétuellement, demeurera en moi et de lui couleront les fleuves de ma vie. Saint Jean, chapitre 7, verset 38. J'essaie d'expliquer tout cela au mieux pour que tout un chacun puisse le comprendre. Quant aux autres et aux conditions nécessaires pour que les sources soient ouvertes en leur faveur, nous trouvons celle-ci en deux leçons de choses au livre des rois. Eh oui, rappelons-nous l'huile qui remplit les vaisseaux vides. Deux rois, chapitre 4, versets 2 et 7. Et l'eau qui remplit la vallée des fosses. Deux rois, chapitre 3, verset 16. Quand il marche dans une communion ininterrompue avec le Seigneur, quand nous, notre âme, marche avec lui d'une façon ininterrompue, grâce à la puissance du sang répandu et dans l'obéissance à la lumière déjà reçue, le racheté n'a pas à se soucier trop de diriger les fleuves d'eau vive, car le Seigneur sait comment amener vers lui ceux qui ont faim et soif. Bien sûr qu'il est clair que croire que nous sommes sauvés pour servir, cela ne veut pas dire attendre dans un fauteuil, assis ou entre deux palmiers, se balancer dans un hamac. Non, les gens ne viendront pas automatiquement vers nous. Nous devons faire notre part, c'est logique. Bien que le mot logique ne figure pas dans la parole de Dieu, c'est une réalité que notre propre intelligence, même parfois limitée, peut comprendre qu'il y a des choses qui sont de notre part à être faites. Nous devons les faire nous-mêmes. Nous avons maintenant le vent céleste de l'Esprit-Saint. Il est dit « Lève-toi », on donnera au vent du Nord un nom, « Lève-toi à Quillon, vent du Nord, et souffle, vent du Midi. Souffle sur mon jardin afin que ses aromates distillent. Chapitre 4, verset 16, et nous sommes donc toujours dans le Cantique des Cantiques. Dans les Saintes Écritures, l'Esprit Saint est comparé au vent, ou encore, il est comparé à un souffle. Voir Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Déjà l'âme est un temple du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui, à l'origine, lui a communiqué la vie d'en haut. Saint Jean, chapitre 3, verset 8. C'est par son moyen que le cœur a été purifié. Actes, chapitre 11, verset 9. Et c'est encore le Saint-Esprit, lui, qui en a pris possession pour que le Christ, le roi, y fasse son trône. C'est donc lui qui a rendu témoignage au Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Saint Jean, chapitre 15, verset 26. Oui, lui, le Saint-Esprit, qui l'a conduite dans toute la vérité concernant la mort avec Christ, mais aussi l'union en sa résurrection et en son ascension. C'est lui qui l'a conduite hors du domaine terrestre jusque dans les lieux célestes, jusqu'en cette vie de résurrection qui commence au calvaire et qui s'étend au-delà. Vivant dans la lumière et par ses affinités dans les lieux célestes, elle est maintenant prête pour le souffle de Dieu sur elle, lequel la rendra capable d'entrer dans un service qui dépasse infiniment celui dont elle s'est acquittée jusque-là. Dans les lieux célestes, elle verra l'Esprit Saint agir avec autant de puissance qu'au jour de Pentecôte, au gré de celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Un vent puissant qui ne remplit pas seulement l'âme, mais aussi toute la maison de son parfum. C'est lui qui fait distiller les aromates précieux en paroles de vie, et cela selon que l'Esprit Saint conduit. Le chapitre 4, verset 16 du Cantique des Cantiques dit ceci: que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits délicieux. Chapitre 4, verset 16. Voici la première parole de l'âme qui a été rachetée depuis qu'elle est avec Christ dans les lieux célestes et qu'elle se repose en lui. Elle a appris le silence de l'amour afin de le pouvoir entendre. À l'origine de sa marche avec lui, elle divulguait aussitôt les expériences faites. Elle en parlait volontiers. Quelques mots de lui suffisaient à la briser, car elle était encore faible dans la vie divine. C'est le début. Il lui a fallu les expériences du désert pour être fortifiée, et cela avant de pouvoir connaître la communion de la vie sur les sommets. Son unique désir, c'est que le bien-aimé soit satisfait, et elle peut dire « Que mon bien-aimé vienne, le jardin est à lui, les fruits précieux sont à lui, tout vient de lui, et tout est pour lui. Sa prière est maintenant l'essence de toute prière, une prière incessante. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Il y a maintenant la vie abondante. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1, « Mangez, ô amis, et buvez abondamment. » Oui, on peut dire « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques, mes rayons de miel, mon vin et mon lait. Mangez, ô amis, et buvez abondamment. » Chapitre 5, verset 1 de Cantique des Cantiques. Les soupirs que l'Esprit Saint forme dans l'âme sont aussitôt exaucés, car l'Esprit Saint lui-même intercède. L'Esprit Saint intercède selon la volonté de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 27. Donc l'âme rachetée a exprimé le désir qu'il fasse usage de ce qu'il a planté, c'est-à-dire qu'il a implanté en elle. Aussitôt, il y a la prompte réponse. « Me voici, je suis venu. » Elle lui a dit que tout était à lui. L'âme lui a dit « Tout appartient » et il l'accepte, répétant jusqu'à 9 fois « mon » ou « ma » ou encore « mes ». Il s'approprie donc les précieux fruits et sans demander l'assentiment de l'âme, qui fait remonter tout à lui, assentiment dont il est certain, il se tourne vers ceux qui ont faim et il les invite à partager avec lui de ce fruit abondant, à manger de cette nourriture céleste que lui-même a préparée. Mangez aux amis, mangez, buvez abondamment de ce festin d'amour. Et maintenant, il va montrer à l'âme qui a été rachetée la multitude qui est sur le point de tomber en défaillance. Et il lui dira, donne-leur maintenant toi-même. Donne-leur toi-même maintenant à manger. C'est à toi de faire maintenant le travail. Deuxièmement, nous avons la communion avec Christ. Il est dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, « Afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à lui en sa mort. » Philippiens 3, verset 10. Ensuite, prenons le chapitre 5 du Cantique des Cantiques, verset 2. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Le Cantique des Cantiques nous donne divers aspects de celui, vous l'avez compris, Jésus-Christ, en qui demeure toute la plénitude de Dieu le Père. Le Saint-Esprit projette la lumière sur divers points pour révéler parfaitement le modèle. Car le racheté doit être rendu conforme à son image. D'abord, il est montré comme étant le roi qui prend possession du trône dans le cœur, dans notre cœur, et détermine la volonté à se soumettre à celle de Dieu. Puis, nous le voyons comme étant le ressuscité qui, dans la gloire, invite l'âme à sortir d'elle-même pour se réfugier au calvaire dans ce rocher frappé pour elle, son Seigneur crucifié et ressuscité. Ensuite, le voici comme étant le bien-aimé. Le voici donc le bien-aimé, Jésus-Christ. Il se réjouit à cause de celle qui, cachée en lui, vit maintenant d'une vie nouvelle. Le bien-aimé énumère les caractéristiques de cette vie et comment elle est manifestée aux autres. Après, il se révèle lui-même comme étant l'homme de douleur et il invite l'âme à prouver sa vocation céleste en suivant son Seigneur sur le chemin de la souffrance pour être rendu conforme à celui qui a été immolé, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. Bien que le Fils unique du Père ait été fait héritier de toutes choses, bien qu'il fût la splendeur de la gloire du Père et l'image empreinte de sa personne, Hébreux chapitre 1 verset 3, il a pris notre humanité et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ayant été rendu parfait, absolument parfait, par la souffrance. Nous devons parfois aussi, disons, parcourir dans notre vie un moment où tout n'est pas rose, où il peut y avoir un moment de souffrance. Et notez Hébreux chapitre 2, verset 10. On peut dire comme le maître, notre maître, eh bien, nous qui sommes ses disciples, le disciple doit être rendu parfait par la souffrance. C'est pas toujours que tout va sur des roulettes comme dans un conte de fées. Nous sommes héritiers de Dieu et évidemment également co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons parfois avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains chapitre 8 verset 17. Je répète ce passage parce que c'est important pour nous de le comprendre. Comme le maître, notre sauveur et Seigneur, le disciple que nous sommes doit être rendu parfait par la souffrance. Oui, parfois, la souffrance, elle sert à quelque chose. Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Et cela afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, selon Romains chapitre 8 verset 17. Et maintenant, l'âme nous révèle son expérience spirituelle à ce moment précis par ces mots « Je dormais, mais mon cœur veillait. » veiller et prier. Son être tout entier appartient au bien-aimé et il est, on peut dire, sous la direction du Saint-Esprit. Elle, l'âme, se sait d'être cachée dans l'anthractuosité, je dirais dans la fente du rocher, la blessure ouverte par la lance du soldat romain. Et par là, le moi a été détrôné. Ce n'est plus moi qui dois être sur le trône. Oh non, je dois être au pied du trône, au pied de mon Sauveur et Seigneur. C'est Jésus-Christ qui doit être sur le trône. Je répète, par là, le moi a été détrôné et elle peut dire avec l'apôtre, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est donc plus moi qui vis. Galates chapitre 2, verset 20. Le Seigneur demeure en elle. Il l'environne et il la garde dans un calme infini. Rien ne peut troubler son repos. Elle connaît une paix parfaite qui est appuyée maintenant sur lui, sur Christ. Le fruit de l'Esprit Saint est amour, joie, paix, patience, douceur, bonté, fidélité, bénignité et possession de soi, je dirais avoir le contrôle de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Ce fruit de l'esprit est si visible en elle maintenant qu'elle est comparée à un jardin arrosé, à une source d'eau qui ne tarit pas. Ésaïe 58, verset 11. Les eaux vives jaillissent maintenant spontanément et avec tant d'abondance qu'elle peut secourir les cœurs souffrants que le Saint-Esprit conduit vers elle. Avez-vous bien compris ce que ça veut dire? Les causes vives jaillissent maintenant spontanément et avec tellement d'abondance que notre âme peut secourir les cœurs qui souffrent et que le Saint-Esprit conduit vers elle, vers l'âme, vers notre âme. La collaboration qu'elle apporte au Seigneur est en définitive celle du sarment. Elle demeure en lui et c'est lui qui donne le fruit. Il lui semble parfois qu'elle n'est que le témoin de l'œuvre du bien-aimé qui agit par elle. Plus de combats, plus d'efforts, et elle est maintenant comme endormie concernant son activité propre. Cependant, elle veille. Elle veille. Elle est prête à saisir la moindre indication de sa volonté, car son unique désir est toujours de le connaître. Il est vrai que nous devons souvent donner beaucoup plus d'efforts à tout ce que nous faisons. Le combat est rude. Il ne faut pas se leurrer. Mais en étant en Christ, en ayant notre âme complètement rendue, en quelque sorte donnée à notre Seigneur, il n'y aura plus des combats sans cesse et pénibles. Il n'y aura plus des efforts que nous devions faire, qui sont parfois au-delà de nos possibilités, car c'est lui, le Seigneur, qui les prendra sur lui et qui les combattra pour nous. Donc, nous sommes prêts maintenant à saisir la moindre indication de sa volonté, car son unique désir au Seigneur, c'est de toujours mieux le connaître. Et il est dit, afin que je le connaisse, lui, pour parvenir, si je peux, à la résurrection des morts. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Non, je ne suis pas encore parvenu. Mais je cours vers le but, courons vers le but, ensemble, qui est le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, versets 10 et 14. Maintenant, nous avons la voix du Fils de Dieu. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Oui, l'âme, elle n'avait pas su le reconnaître quand il s'était présenté à elle comme étant le ressuscité. Mais maintenant, dans l'intimité de sa communion, elle a appris à discerner rapidement sa pensée, selon Ésaïe chapitre 11, verset 2. Un seul regard, un seul mot suffise entre ceux qui s'aiment, c'est connu. Cependant, ce sont des signes inintelligibles pour les étrangers. Elle connaît vraiment sa voix. Notre âme doit connaître sa voix quand il nous parle, quand il nous appelle. Et cette foi, elle peut discerner en celle-ci, en somme, comme un nouvel appel, car il ne s'y trouve comme le bruit de quelqu'un qui frappe. Je frapperai à la porte, et c'est à toi d'ouvrir, si tu veux être sauvé. C'est l'appel de l'homme de douleur. Selon le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 9, « Ouvre-moi, ma sœur, ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Essayons de comprendre cette allégorie. Il y a ici une allusion à l'agonie de Gethsémané. Rappelez-vous, lorsque les gouttes de sang tombaient du front du Seigneur jusqu'en terre, selon Luc, chapitre 22, verset 44. Et c'est sous ce jour qu'on peut interpréter l'appel du Seigneur et la réponse de l'âme, puisqu'elle est unie à lui en sa résurrection. Comprenons bien cela de l'importance. Notre âme est unie au Seigneur en sa résurrection. Il se révèle donc en elle, en notre âme, comme étant le rejeté. Il a été rejeté, le méprisé, rappelez-vous, afin qu'elle partage son lot, que nous puissions partager son lot. Il a été et il est celui que le monde a rejeté autrefois, lorsqu'il a revêtu notre humanité, et maintenant encore, puisque elle, notre âme, a accepté de le suivre, elle sera aussi rejetée, il ne faut pas se leurrer, elle sera rejetée en un monde qui haït le Sauveur. Si elle reste fidèle et marche sur ses traces et se rend conforme à lui, il est dit « Je vous ai choisi dans le monde, c'est pourquoi le monde vous haït, il vous haïra. » Saint Jean, chapitre 4, verset 19, je répète cela, puisque elle, notre âme, nous, avons accepté de suivre le Seigneur, notre âme, nous serons aussi, il ne faut pas se leurrer, nous serons aussi rejetés en un monde qui, malheureusement, haït toujours plus, rejette toujours plus le Sauveur. Si elle reste, si nous restons fidèles, et si nous marchons sur ses traces, et que notre âme, nous, et que nous nous rendons conformes à lui, eh bien nous pouvons bien comprendre le verset de Saint Jean, chapitre 4, verset 19, où il est dit « Je vous ai choisi, toi ma sœur, toi mon frère, dans ce monde bouleversé, épouvantable, incroyable. Tous les jours, on lit dans les journaux les atrocités, ça vient toujours pire, et on n'a pas tout vu puisque le pire est à venir. Et si nous restons fidèles, intègres, sur les traces du Seigneur, le monde nous haïra. Eh oui, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Si le monde devait nous aimer, ça voudrait dire que chez nous, il faudrait tout remettre en question. Ça, j'ai compris tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Je me remettrais rapidement en question si le monde autour de moi, tel qu'il est maintenant, commençait à m'aimer. Je ferai attention. Chers amis, quelle leçon se dégage pour nous de ce passage. Apparemment, le bien-aimé est au dehors. Il dit « Ouvre-moi, ma sœur, ouvre-moi. » C'est comme s'il disait « Tu as ouvert ton cœur au roi, au Seigneur, ressuscité, et bien maintenant, ouvre-le également à celui, à ceux qui sont meurtris, qui sont en quelque sorte comme frappés par Dieu et qui sont plongés dans la souffrance. Ouvre-moi afin de pouvoir communier à mes souffrances et de participer également à ma gloire. Ouvre-moi. C'est toujours volontairement et par un libre choix que la rachetée, notre âme, doit suivre le bien-aimé. Aussi, il lui montre le chemin de la préparation nécessaire pour régner avec lui. Pour bien des enfants de Dieu, cet appel du Seigneur est absolument inattendu, car ils ont eu la vision du calvaire et de leur identification avec le Seigneur en sa mort. N'est-il pas vraiment leur substitut? Il devrait être notre substitut. et ils sont convaincus de n'avoir plus rien à apprendre du calvaire. Ils se trompent. Ils s'attendent, et ils ont raison en quelque sorte, à une connaissance toujours plus grande du Seigneur ressuscité et glorifié. Nous devons grandir et désirer de grandir dans notre Seigneur ressuscité et glorifié. C'est notre devoir. Mais leurs yeux, est-il dit, ne se sont pas encore ouverts au fait qu'ils ne connaîtront la puissance de sa résurrection que en entrant dans la communion de ses souffrances. Nous devons entrer en communion avec ce qu'il a souffert et en devenant ainsi conforme à notre Sauveur et Seigneur en sa mort. Philippiens 3, verset 10. L'âme qui a été rachetée, elle doit vivre quelque temps dans l'union au Seigneur ressuscité avant d'avoir la force de se réjouir d'être jugé, d'être digne pour achever de souffrir, ce qui souvent manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Je voudrais dire en ce qui me concerne, eh bien, je dois être honnête de vous dire, une période de souffrance dans ma vie a toujours été un avantage pour me rattacher au Seigneur. C'était pas toujours très gai, bien au contraire, mais cela m'a racheté au Seigneur. Si tout aurait été comme sur des roulettes, comme on voudrait dire dans un palais en or, je me serais jamais autant rattaché au Seigneur. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et surtout ensuite, j'ai pu beaucoup mieux comprendre tous ceux qui autour de nous souffrent en se levant le matin à 5 heures pour traverser des villes énormes en métro pour aller au travail, revenir tard le soir. Croyez-vous que ceux-là ont le temps de s'amuser avec toutes les gadgets électroniques et puis de regarder la télévision jusqu'à minuit? Absolument pas. Ils sont tellement vidés, fatigués, que certains m'ont dit, on n'a parfois même pas la force de manger correctement. On avale juste quelque chose, on se met sur le lit pour dormir le plus vite possible, pour se lever à 5 heures du matin. Ah oui, ça c'est de la souffrance. Il n'y a pas que la souffrance de la chair, du corps, mais il y a aussi la souffrance morale, psychique, et d'être traité comme des esclaves. Oui, seul Jésus-Christ peut nous faire comprendre tout cela. La souffrance du chrétien, elle ne peut faire d'aucune manière la propitiation du péché. Ça non plus. Il ne faut pas penser dans ce sens-là. Je répète, la souffrance du chrétien, notre souffrance, elle ne peut en aucune manière être la propitiation du péché, comme si nos péchés pourraient être effacés parce que nous souffrons. Christ, lui seul, notre Sauveur et Seigneur, peut faire cela. Ce serait donc jeter le déshonneur sur l'œuvre de Christ que de prétendre des choses pareilles. Cependant, il faut dire que ces souffrances, comme étant membres du corps, Eh bien, toutes ces souffrances que nous avons parfois sont assimilées à celles de notre chef qui a été pendu au bois. Le supplice de la croix a duré 6 heures. 1 heure est laissée pour l'épouse, son église, ce qui donne le total de 7, le nombre parfait. Ne pouvez-vous, a-t-il dit, veiller au moins 1 heure avec moi? Saint Matthieu, chapitre 26, verset 40. Terminons par un poème ou quelques paroles qui sont merveilleuses. Avec Jésus, notre Sauveur à table, nombreux sont ceux qui prennent place. Encore quelques disciples avec lui jeûneront, mais que survienne la douleur, que la coupe d'affliction déborde, eh bien dans le jardin, à peine quelques-uns veilleront. De ceux qui, cependant, ont chanté le cantique, cela nous donne à réfléchir. Mais pour l'âme qui parfaitement aime, que survienne bonheur ou douleur, son plus cher trésor, elle considère comme appartenant d'abord à son Seigneur, mon Sauveur, toi qui m'as tellement aimé, fais-moi donc la grâce de t'aimer ainsi et toujours. Amen. Chers amis, merci pour la fidélité de votre écoute et nous allons, si vous le permettez, terminer par la prière. Eh bien, chers amis, vous qui êtes à l'écoute, étant donné que, selon des statistiques qui ne sont pas les miennes, mais beaucoup plus élaborées que je pourrais jamais le faire, il paraît qu'il y a toujours plus de malades autour de nous. Et il n'y a qu'à ouvrir n'importe quel journal, quel magazine, pour s'en rendre compte. Le Seigneur m'a donc mis dans le cœur de terminer mes études avec une prière à l'intention de tous ceux qui souffrent. Donc, cette prière, elle est personnellement pour tous ceux qui souffrent et qui sont malades. Donc, cette prière, elle est pour vous, c'est à vous de la formuler, de la répéter après moi, ou de la méditer après, et donc de prier dans ce sens. C'est pour vous guider, pour que vous puissiez faire vos prières selon vos besoins. Seigneur, répands dans nos cœurs ta paix et imprime en nos cœurs ta sainte parole. Triomphe de nos passions dans toutes nos afflictions. Soutiens-nous dans nos combats de tous les jours. Je connais que je suis parfois craintif et que je regarde davantage aux circonstances qui paraissent parfois insurmontables de ma vie, à la place de me souvenir que tu es le maître, tu es toi le maître absolu, pas moi, de toutes les circonstances, et que je devrais, de ce fait, savoir que tu es prêt de me secourir et de restaurer également ma santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, Seigneur, viens remplir nos cœurs et notre esprit de toi-même et sois avec nous pour nous conduire dans toute ta volonté au saint nom de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Au revoir mes très chers amis, à demain matin pour la suite de cette série.